Pour d'autres que des provinciaux, il n'y avait rien de plus clair que la conduite de la Cour de France. Depuis sa rentrée dans la capitale, Mademoiselle s'était sauvée des Tuileries le 21 octobre 1652. Le lendemain, le jeune roi tenait un lit de justice où le Parlement recevait défense de s'occuper des affaires générales de l'État. Et la monarchie absolue était faite. Les bannissements et les poursuites commencèrent aussitôt. Mais il en était fort peu question dans les gazettes, où Paris apparaissait uniquement occupé de ses plaisirs. Les ordinaires de novembre apportèrent à Saint-Fargeau des descriptions d'un premier bal, de cour et quelques lignes sur un nouveau lit de justice, 13 novembre, où le prince de Condé et ses adhérents avaient été déclarés criminels de lèse-majesté. En décembre, on eut l'arrestation de Reiss, qui s'était cependant rallié avant la fin de la Fronde et la relation d'un grand mariage avec énumération des cadeaux et non des donateurs, exactement comme dans nos journaux mondains. Janvier fut marqué par plusieurs succès de Turenne sur Condé et ses Espagnols et par la mort de l'ancienne naine de Mademoiselle qui avait pris sa retraite il y avait 7 ou 8 ans. Son article nécrologique tient plus de place dans la Gazette de Loré que les nouvelles politiques et celles de la guerre mises ensemble. Le 3 du mois suivant, l'ère révolutionnaire fut close par le retour triomphal de Mazarin. Louis XIV alla au-devant de lui l'espace de 3 lieues. Encore qu'il fît un temps étrange, temps de vent, de pluie et de fange, et le ramena dans son carrosse au Louvre, où l'attendait un somptueux festin, un feu d'artifice et les hommages, plus ou moins sincères, d'un peuple de courtisans. L'attention des Parisiens se porta ensuite sur un grand ballet, avec trucs et changements à vue, qui fut dansé 3 fois par le roi et la fleur de sa noblesse, devant des publics analogues à ceux de nos représentations gratuites du 14 juillet. On réservait des places pour la cour et ses invités qui faisaient partie du spectacle et entraient du reste qui voulait. La foule s'écrasait aux portes pour voir ce qu'on ne verra probablement plus jamais, un monarque assez sûr de son prestige pour pirouetter en costume de divinité mythologique ou zigzaguer en voleur qui a trop bu devant la canaille de sa capitale. Le lendemain de la première, un journaliste se plaignit aigrement dans sa feuille d'avoir fait que 3 heures et attendu 8 heures dans la salle pour ne rien voir du tout. À peine si la presse était née, elle avait déjà le sentiment de son importance. Elle exigeait des égards et elle les obtenait. À la seconde représentation, le chroniqueur, à qui l'on avait manqué de respect, fut conduit en cérémonie aux places réservées. Il ne fut pas encore content. Il n'était pas de face. Cependant, il se montra bon prince et fit un article où il admirait tout. Même un tableau dont le comique nous semble aujourd'hui bien inhumain. C'était un bal d'estropié. Les contorsions de ces misérables firent beaucoup rire. Des abus qui avaient amené la Fronde, âme qui vive, ne soufflaient plus mot. Aucun n'avait disparu et la plupart s'étaient aggravés par le désordre général. Mais la France ressemblait à un malade qui n'a trouvé que des charlatans pour médecins. Elle en avait assez des remèdes. Le peuple de Paris, écrivait André d'Ormesson, était dégoûté des princes et ne voulait plus manger de la guerre. On pouvait en dire autant des provinces. Elles restaient pour la plupart troublées et misérables. Mais la haine s'y tournait contre les seigneurs, auxquels 4 ans d'anarchie avait refait des mœurs de brigands féodaux. Déçus de tous les côtés, trompés par tous les prétendus sauveurs, le pays en revenait à mettre son espoir dans le pouvoir central. Il n'en fallait pas davantage pour que ce dernier reprît chaque jour de la force, et il sautait aux yeux des Parisiens, aussi bien que de ses courtisans, que le premier usage que ferait la royauté de sa convalescence serait de mettre les grands hors d'état, de recommencer la fronde. Le temps était passé pour eux de servir le roi de France à leur mode et non à la sienne, comme lorsqu'ils se battaient contre lui pour son service. Et afin de le délivrer de son premier ministre, Louis XIV voudra être servi à sa mode à lui, qui était d'être obéi, et il se sentira de force à l'imposer. Il fallait toute la naïveté de mademoiselle pour s'imaginer qu'elle lui ferait admettre ses distinctions de vieille frondeuse entre monsieur le prince, à qui l'on avait le droit de souhaiter des succès, et les soldats espagnols commandés par monsieur le prince, auxquels il n'était pas permis de s'intéresser. Elle avait si peu conscience du changement qui s'était produit dans les esprits dès le lendemain de son exil, qu'elle n'essaya même pas de dissimuler son chagrin à la nouvelle de la victoire d'Arras, remportée par Turenne le 27 août 1654. La grande mademoiselle se crut en règle avec son roi et son pays, lorsqu'elle eut écrit dans ses mémoires « Je n'ai point souhaité que les Espagnols remportassent des avantages sur les Français, mais je souhaitais fort ceux de Monsieur le Prince, et je ne me pouvais persuader que cela fût contre le service du roi. » Il y avait alors 4 mois que le jeune monarque était entré le fouet à la main au Parlement pour lui défendre de se mêler de ses affaires. Mais sa cousine n'avait pas plus compris cet avertissement-là que les autres. Pas une fois la pensée ne lui était venue que les branches cadettes étaient parmi les vaincus, et que les parents du roi de France, bien éloignés de pouvoir prétendre à lui dicter la loi, seraient désormais les plus étroitement tenus de tous ses sujets. Il leur a fallu les approches de la Grande Révolution pour reprendre de l'importance, et l'on sait si Louis XVI et Marie-Antoinette ont eu à s'en louer. Ce fut monsieur qui se chargea de ramener sa fille au sentiment de la réalité. Il était dit qu'aussi longtemps qu'il vivrait, les expériences amères viendraient à mademoiselle par ce prince dangereux.